Nouveau coup de théâtre. Donald Trump a annoncé hier soir la conclusion d'un cessez-le-feu après une riposte iranienne très mesurée aux frappes américaines, semblant montrer une volonté de désescalade du côté de l'Iran. Netanyahou a déclaré qu'Israël a remporté une victoire historique contre son adversaire, qui n'aura pas d'armes nucléaires. Et le président iranien Pezeshkian a annoncé la fin de la guerre de 12 jours imposée à son pays et indiqué être prêt à revenir à la table des négociations sur le nucléaire. Furieuse impression de déjà-vu, 6 semaines après la séquence de guerre entraîne des Pakistan, terminée sur un cessez-le-feu annoncé par réseau social par le président des États-Unis, mais aussi sur une absence totale de résolution des problèmes à l'origine du conflit. Alors assistons-nous à un triomphe de la volonté de Trump, une nouvelle méthode d'imposition de la Pax Americana, ou à une simple imposition de couvercle sur la marmite, grosse d'un risque futur d'explosion? Bonsoir, je suis Philippe Fabry. Nous sommes le 24 juin 2025, il est 21h43 et nous sommes en présence de l'insistant Léo Portal. Comment vas-tu, mon cher Léo?
Bonjour Philippe, ça va et toi?
Ça va, on se voit beaucoup en ce moment,
J'ai pensé
hein?
tout à l'heure, j'étais à l'étage, je me suis dit putain,
Moi, je peux plus te blairer, toi, je sais pas où.
j'ai, écoute, étonnamment ça va.
Ah, c'est terrible, j'ai même pas de coca, c'est une catastrophe.
On a tout bu.
Ouais, on s'est trop dépêché pour m'installer ce soir. Donc ce soir, encore un live exceptionnel. Donc naturellement, on répondra aux questions, bande de petits vénards, en public, pendant la deuxième moitié de cette émission, qui ne sera pas très tard, je pense, parce qu'on est quand même très fatigué. Simplement, on ne peut pas passer à côté de forcément la nécessité de commenter cet événement qui tient à la fois du non-événement. Alors c'est assez amusant, nous sommes dans une espèce de phase dans laquelle il y a du y aura rien quand même, parce que si ça se termine comme ça, c'est quand même du très gros y aura rien. Mais ce y aura rien en lui-même est quelque chose, puisque c'est une actualité qui nécessite d'être commentée pour actualiser tout ça. Alors vous savez, bon, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit dans les deux précédentes émissions que j'ai fait sur les 4 jours précédents. Que dire? On était resté sur les frappes américaines et sur la question qu'elle laissait en suspens quant à la volonté américaine d'intervention et d'implication dans le conflit, et la volonté iranienne de riposte réelle et donc d'entrée dans le conflit. Et clairement, on a eu des réponses là-dessus. On a eu des réponses. La première réponse, c'est que, de manière assez évidente, Donald Trump ne veut pas se lancer dans une nouvelle guerre. On s'en doutait un petit peu, mais il aurait pu y être traîné, on va dire. Et d'autre part, l'Iran lui-même ne veut pas se lancer dans cette guerre contre les États-Unis. Autant on pouvait donc avoir l'impression que contre Israël, il pouvait y avoir du côté du régime iranien qui pouvait se sentir suffisamment solide encore, une espèce de volonté d'entrer dans une guerre longue et d'encaisser les coups. Enfin, quitte à encaisser les coups, en se disant que ben, ça allait finir par fatiguer Israël et que ça représenterait une forme de victoire stratégique pour l'Iran de ne pas céder. Bon. Autant vraisemblablement, enfin, assez clairement dans l'évolution qu'on voit du conflit, il n'y a pas non plus la volonté de se prendre des coups de la part des États-Unis qui risqueraient de taper encore plus fort. Alors, d'où vient la décision iranienne? Il y a plusieurs questions qu'on peut se poser à ce niveau-là. D'abord, la première question la plus évidente et la plus immédiate, c'est de savoir quels sont exactement les dégâts qui ont été commis aux installations nucléaires iraniennes. On ne le sait toujours pas. On ne le sait toujours pas. Encore une fois, je ne suis pas un technicien là-dessus. J'essaie de regarder les analyses techniques. Je vois de tout. Je vois des gens qui disent, regardez, d'après les photos qu'on voit clairement, Il y a eu des tassements de terrain, donc probablement que les bombes ont pénétré, ont fait sauter la montagne qui, en gros, s'est effondrée intérieurement, ce qui suggérerait des dégâts importants. Il y en a d'autres qui disent, oui, mais regardez, les frappes, elles ont juste touché autour de certaines entrées, etc. Donc, ça n'a pas pu avoir de dégâts. Donc, c'est extrêmement difficile à dire sur cette question, savoir quel a été l'impact. D'autant plus qu'encore une fois, et ça semble être une info relativement confirmée, en tout cas j'ai vu beaucoup d'analystes la considérer comme vraie, c'est-à-dire qu'il y a de l'uranium qui se promène et qui probablement n'était plus sur place. Donc l'uranium enrichi, les Iraniens l'auraient toujours. Là aussi, question, le cessez-le-feu annoncé par Donald Trump, c'est pour ça que je disais que ça ne règle pas de problème, le cessez-le-feu ne dit pas et n'est pas aux conditions qu'il avait exigées à la base. Qui était d'une reddition, d'une capitulation totale, puisqu'il n'y a pas d'engagement aussitôt qui est pris par les Iraniens de cesser tout enrichissement d'uranium. Pour l'instant, il n'y en avait pas question. Même dans un premier temps, il a été question de la part d'Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, de dire qu'il n'y avait pas d'accord, simplement que l'Iran arrêterait de taper en attendant de voir si les Israéliens arrêtaient de taper aussi. Bon. Donc c'est assez, et que la décision finale serait faite plus tard. Il semble qu'on soit entré dans cette décision. Il y avait encore beaucoup de gens qui doutaient ce matin, qui disaient mais non, c'est pas terminé, ils vont se taper dessus. En fait, c'est un petit peu comme le Pakistan et l'Inde, c'est-à-dire ça continue un peu à taper, mais assez rapidement, en réalité, on est descendu. Il y a eu des frappes qui ont été menées par Israël, qui ont été dénoncées publiquement de manière assez virulente par Donald Trump, qui a envoyé le signal en gros à Israël qu'il fallait arrêter. Et autant les Israéliens essaient de se défaire de la tutelle des États-Unis sur ces questions-là, autant après que les Américains se soient directement impliqués, et alors qu'Israël dépend toujours énormément de fournitures d'armes de la part des Américains, ils ne peuvent pas aller trop loin non plus et jouer la carte d'essayer de tirer véritablement les États-Unis dans la guerre. Alors peut-être qu'ils vont essayer de le faire dans les jours qui viennent. Mais immédiatement, c'est un petit peu, ça paraît pas l'hypothèse à privilégier. Alors la question de savoir, c'est ensuite, au-delà, où en est le régime iranien lui-même? Parce que comme je vous l'ai dit, encore une fois, hein, ancien régime finissant, avec une force armée qui existe toujours et qui permet de tenir le régime, mais la question c'est de savoir jusqu'où? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Encore une fois, comme je l'ai répété plein de fois ces derniers jours, il y a 2 ans, il y a eu les manifestations très importantes à l'intérieur du pays, alors qui ne touchaient pas la totalité du pays dans son ensemble, et c'est essentiellement dans les villes surtout qu'il y a eu ces mouvements de jeunesse, de recherche d'émancipation, dont encore une fois, apparemment, on voit le résultat encore aujourd'hui à Téhéran. Puisque la police des mœurs, disons, il est fait de façon moins active, ne serait-ce que pour éviter que les gens s'énervent à nouveau. Donc, pour maintenir la paix sociale, il y a eu, disons, semble-t-il, une forme de tolérance pratique qui s'est mise en place, ce qui montre bien que ces manifestations avaient eu un effet important. Et il faut bien se souvenir que ces manifestations, c'était encore avant que le Hezbollah se fasse étriller, que la Syrie tombe, que les Houthis s'en prennent quand même quelques-unes aussi. C'est-à-dire qu'en fait, depuis qu'il y a eu ces débuts de manifestation, en réalité, et c'est ce que je constatais déjà l'autre jour, l'Empire iranien s'est assez largement démembré. Donc il est vraisemblable, enfin il est tout à fait possible, qu'on ait déjà en réalité un appareil militaire intérieur, en particulier disons, paramilitaire, disons, du corps des gardiens de la Révolution, mais c'est ça la force militaire intérieure. L'armée iranienne est une seconde zone moins bien équipée, etc. C'est vraiment les gardiens de la Révolution, l'armée du régime, qui est l'armée efficace du pays, se sent déjà affaiblie. Elle a perdu une partie de ses cadres, elle a perdu une partie de son influence régionale. Et donc, tout ça pour dire qu'on est peut-être déjà entré dans une phase qui est très très loin, vous savez, comme je compare souvent avec l'Empire allemand, qui est très très loin de 1914 et qui est déjà beaucoup plus proche de 1918, en fait. C'est-à-dire avec déjà une grosse fatigue et le sentiment de la part des élites, du régime, que le régime est extrêmement fragile et qu'il faut le sauver, il faut trouver un moyen de sauver la paix sociale en urgence. Et la paix politique surtout. Et donc garantir le maintien du régime. Et le seul moyen de le maintenir, c'est de d'arrêter les frais au niveau militaire. Alors, si possible, sans que ça ait l'air d'une défaite catastrophique. Mais voilà, si jamais les choses s'arrêtent là, il y a quand même un petit côté retrait en bon ordre. Et il faut se souvenir de ça, que si je fais encore une fois le parallèle avec la situation de l'Allemagne en 1918 quand tout s'est effondré. Il y a eu le retrait en bon ordre d'une bonne partie des troupes sur le front, ce qui a donné plus tard le lieu à la légende du coup de poignard dans le dos. Et ensuite, une bonne partie de ces troupes n'ont pas été désarmées en rentrant à la maison, mais se sont mis à former des corps francs. Et à ce moment-là, il y a eu le basculement de l'Allemagne dans les événements de guerre civile de 1919, hein, notamment avec la révolte spartakiste, la République des Conseils de Bavière, dont je parle régulièrement, etc. Donc, on est peut-être en fait déjà dans un stade de maturité comme ça. Alors, il n'y a pas d'agitation encore intérieure très forte en Iran, les choses sont calmées. J'ai dit aussi en quoi les bombardements étaient gênants à ce moment-là. Mais si les choses se calment effectivement, laisse derrière un régime affaibli qui va essayer d'expliquer qu'il a gagné, naturellement. De toute façon, ils sont déjà en train de le faire. Il semble-t-il qu'ils devaient même organiser une parade de victoire à Téhéran à 6 h ce soir. Mais ça va laisser l'information sur ce qu'est le régime va tourner. Les gens vont revenir dans les grandes villes. Il est probable que la paix et la nécessité de négocier finissent par nourrir à nouveau une forme de contestation sociale, et que ce qui aura été malgré tout une humiliation des gardiens de la Révolution laisse des traces dans la durée. Et à ce stade, je pense que c'est ce qui est le plus probable. C'est-à-dire, je pense pas, encore une fois, je peux me tromper, hein, mais c'est en fait c'est quasiment impossible à prédire, tellement ça dépend beaucoup de quelques choix de personnes, finalement, ces choses-là. Mais sur la tendance, de toute façon, faut pas oublier, historiquement, si vous restez au fond, on va vers une nouvelle révolution en Iran. Très simple, où le régime des mollahs disparaîtra totalement, le corps des gardiens de la Révolution sera balayé, donc on va aller sur autre chose. Cette autre chose, il peut prendre de multiples formes. Il est la forme la plus plausible à ce stade qu'on peut imaginer, c'est le fait qu'avec l'affaiblissement du corps des gardiens de la Révolution, il y a une partie de la contestation, notamment celle qui datait de, qui est également musulmane et conservatrice, mais beaucoup plus démocrate, qui était celle qui avait manifesté en 2008, hein, où les manifestations étaient d'ampleur très très supérieure à ce qu'on a vu même il y a 2 ans. Cette contestation pourrait réapparaître, et à ce moment-là, il risque d'y avoir dans l'appareil d'État, et notamment dans l'appareil politique, et notamment entre les institutions, on en parlait l'autre jour, un bras de fer. Par exemple, vous pourriez avoir le président Pezeshkian qui chercherait à capter du pouvoir au détriment du guide suprême iranien, par exemple, ce genre de choses. Et en s'appuyant sur, ou pour répondre à la contestation, à une contestation sociale importante. Je pense que ça ne va pas démarrer du jour au lendemain, mais avec un régime affaibli, le temps que les gens rentrent à Téhéran déjà, que la vie reprenne son cours, qu'on voit le tournant que prennent éventuellement les négociations avec les États-Unis, je pense que c'est dans cette direction qu'on va aller. Voilà. Si c'est pas le cas, si je me trompe et qu'en réalité le régime n'est pas encore aussi avancé là-dedans, si on doit revenir sur l'idée que le cortège gardien de la Révolution, en gros, on est encore sous la pédale et encore capable même de formes de projection régionale et n'a pas dit son dernier mot. À ce moment-là, ce à quoi on risque d'assister, c'est un prolongement de ce qu'on a vu l'année dernière, simplement qu'on aura eu cette fois-ci une séquence plus longue de frappes et d'échanges de frappes, et je sais pas, ça pourrait durer 3, 4, 6 mois avant que de nouveaux bombardements et de nouveaux affrontements repartent, qui cette fois-ci pourraient impliquer les États-Unis. Ça, c'est une autre possibilité. Encore une fois, l'issue terminale, c'est vraisemblablement la même, c'est-à-dire une chute du régime. Qui, au sein, ça aussi c'est important, au sein du concert international et notamment de la confrontation mondiale entre le bloc et l'ordre américain, on va dire, ne se passera pas tout seul. C'est-à-dire, si vous voulez, quand l'URSS est tombée, encore une fois, il y avait personne pour intervenir et essayer de sauver le régime depuis l'extérieur, quoi. Si le régime iranien tombe, il est vraisemblable à ce moment-là, j'en ai parlé les autres jours, que par exemple, là, la Russie envoie des gars pour essayer de soutenir un petit peu, ou des moyens pour essayer de soutenir le régime, au moins sur une partie du territoire. Vous voyez, ça, c'est une possibilité. Pareil du côté chinois. Il n'est pas impossible d'ailleurs, et c'est vraisemblable, que dans ce qui se passe actuellement, la façon dont il y a eu cette décision des Iraniens d'accepter finalement d'arrêter les frappes, il y a aussi l'attitude chinoise qui, semble-t-il, la Chine a averti l'Iran de ne pas bloquer les Straits d'Hormuz. Alors, la décision avait vraisemblablement de toute façon pas encore été prise du côté iranien, mais à partir du moment où l'Iran perdait ce levier-là, et ne peut pas se mettre à dos la Chine, ben forcément, ça fait une pression, encore une fois, qui a favorisé ça. Assez clairement, les marchés internationaux ont l'air de croire à cette histoire de cessez-le-feu, puisque le pétrole a plongé de 6%, je crois. Alors, je ne sais pas si ça l'a ramené au niveau pré-guerre, mais enfin, en tout cas, la situation s'est assez nettement calmée. Donc, à voir. Il va falloir patienter un peu pour savoir exactement si les choses vont éclater. À côté de ça, il y a quand même d'autres choses qui restent. Par exemple, des fondamentaux de la région, les intérêts turcs, dont je reparlais encore l'autre jour, qui sont persistants. Et là encore, la Turquie pourrait essayer d'avancer ses pions, notamment en Arménie, en profitant de cet affaiblissement des Iraniens et en se disant, vu comme les Iraniens ont joué la désescalade contre les Américains, nous, si on tente des trucs, ils essaieront rien, ils bougeront pas. Il y a la question de l'Irak aussi, où encore une fois, je pense que le nationalisme irakien risque de finir par s'exprimer. Et à partir du moment où la démonstration de faiblesse, d'une certaine manière, en dehors du territoire iranien, des gardiens de la révolution peut passer comme une démonstration de faiblesse des milices pro-iraniennes elles-mêmes, donc ça peut là aussi ranimer le truc. Donc, pas impossible que dans les mois qui viennent, l'Iran se retrouve face à une guerre par proxy de la part de la Turquie via la Syrie. Enfin, je renvoie toutes les hypothèses, je ne vais pas revenir en détail, que j'ai émises ces jours-ci sur cette possibilité-là, et se retrouve à devoir gérer ça et à devoir y laisser ses dernières forces finalement. C'est plausible parce qu'encore une fois, le problème demeure, le problème n'est pas réglé. Et enfin, dernière chose, il y a Israël. Israël dont j'ai du mal à considérer qu'il puisse être satisfait par ce qui se passe. Alors, à moins qu'ils aient des informations particulières sur les dégâts, par exemple, faits à Fordo, ou sur le sort de l'uranium. Si ça se trouve, il y a une partie de l'uranium qui a été exfiltrée par les Iraniens, qui a été interceptée par le Mossad. C'est assez difficile de savoir, mais on ne sait jamais vu ce qui s'est déjà passé là-bas. Et en tout cas, il est vraisemblable que là aussi, dans les semaines, mois qui viennent, le Mossad puisse décider de travailler au corps la société iranienne, de diffuser les informations sur les coûts réels ou supposés, y compris le corps des gardiens de la Révolution, pour achever de discréditer le régime et favoriser justement la renaissance d'une contestation sociale. Donc tout ceci est encore. Tous ces problèmes sont encore là. La question de Trump ne règle pas grand-chose. Elle met fin, disons, elle étouffe l'incendie. Mais ça ne signifie pas que les conséquences lointaines de l'incendie ne se produiront pas. Et après l'affaire Inde-Pakistan, ça pose quand même la question de savoir si Trump n'est pas une espèce de mulet du y aura rien. Vous savez, dans le cycle de fondation, la fondation, c'est fondé sur l'idée de psychohistoire, c'est-à-dire une science qui permet de prévoir les comportements collectifs à long terme, pas les comportements individuels, mais les comportements collectifs. Et donc, grosso modo, de prévoir l'histoire à venir parce que les comportements individuels sont considérés comme relativement négligeables. Et le mulet, c'est un personnage qui a des pouvoirs spéciaux, pour le faire très court, et qui donc est une anomalie à l'intérieur du système, et donc ne peut pas être prévu par les calculs, et peut même avoir à l'échelle collective des effets qui ne peuvent pas être prévus. Et donc, qui fait dérailler finalement tous les calculs, en faisant arriver quelque chose et en étant une espèce d'Alexandre le Grand, si vous voulez, alors qu'on devrait être dans une phase de morcellement de l'Empire. Lui, il est capable pratiquement lui tout seul de le recréer. Et Trump, il y a un côté mulet du rien, dans le sens où la façon d'agir de Trump, en décidant de mettre un couvercle comme ça avec force sur tous les conflits qui peuvent se déclencher, ben, ça a un effet effectivement bloquant qui peut peut-être même repousser un certain nombre de choses qui devraient se passer. Parce qu'en fait, imaginez que vous n'ayez pas eu le même leadership à la tête des États-Unis. Alors, d'après les Indiens, ce n'est pas Trump qui a fait la paix entre le Pakistan et l'Inde. En gros, c'est le Pakistan vraiment qui est en train de s'en prendre plein la gueule, semble-t-il, d'après les commentaires qu'on a et le rétexte maintenant un petit peu. C'était le cas. Les Palestiniens sont vraiment pris une fessée aérienne, semble-t-il. Les Palestiniens, pardon, les Pakistanais. Et donc, les Pakistanais auraient demandé le cessez-le-feu aux Indiens et peut-être qu'ils seraient passés par les Américains pour demander le cessez-le-feu. Et donc, peut-être qu'il y aurait eu un cessez-le-feu, même sans intervention américaine. Enfin, quand même, l'intervention américaine joue. Et donc, imaginez qu'il y aurait eu un conflit qui se serait déclenché là, que le conflit entre Israël et l'Iran soit envenimé parce que il n'y aurait pas eu des Américains qui auraient accepté de bombarder Fordow, mais du coup, les Israéliens auraient, eux, continué dans la durée, et en même temps, les Américains n'auraient pas eu la force d'arrêter les Iraniens, si, mettons, on avait toujours Biden au pouvoir. Et donc, la théorie, si vous voulez, à ce moment-là, du gendarme occupé, hein, que je mentionne souvent, c'est-à-dire le fait que le gendarme est occupé ailleurs, il y a d'autres conflits qui se déclenchent, mais vous avez une espèce de domino où tous les conflits qui peuvent se déclencher se déclenchent. Là, avec cette mise du couvercle sur la marmite de Trump à chaque fois, ben, ça a quand même un effet systémique qui est que ça empêche qu'il y ait trop de feux qui s'allument en même temps, parce que les feux semblent s'éteindre. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que ces feux risquent de se rallumer tous en même temps, ou bien est-ce que ça nous met dans une espèce de... Est-ce que la confrontation géostratégique actuelle est simplement une espèce de redite de guerre froide avec des éclatements chauds de temps en temps, une espèce de guerre mi-chaude ou de guerre mi-froide, comme vous voulez. Ça fait un peu Kaamelott, mais il y a peut-être un peu cette idée-là. C'est-à-dire où vous avez des éruptions comme ça, qui durent quelques jours, qui sont très violentes, parce que c'est très violent, et puis qui s'arrêtent. Il faut voir aussi, hein, il faut se rendre compte de ça, que qu'est-ce qui fait que ces éruptions s'arrêtent et n'ont pas trop le choix que de s'arrêter? C'est que ça reste des guerres de haute technologie. C'est-à-dire qu'on utilise des avions, on utilise des missiles, etc. Et ce sont des choses qu'on n'a pas en très très grande masse, plus autant des grandes guerres industrielles qui permettent de durer très longtemps. Et on a vu qu'en fait, sur tous les terrains, assez rapidement, les belligérants se fatiguent et qu'il faut trouver une issue de sortie. Le seul cas dans lequel ça n'a pas eu lieu, c'est entre la Russie et l'Ukraine. Mais pourquoi ça n'a pas eu lieu entre la Russie et l'Ukraine? Déjà parce que les deux pays sont dans une situation, encore une fois, une dynamique historique qui les pousse à rien vouloir lâcher l'un et l'autre, mais aussi et surtout parce que comme ils sont limitrophes et ils sont dans des endroits où on se bat facilement, ce qui est moins le cas entre le Pakistan et l'Inde quand même, ils sont dans des endroits montagneux, compliqués, pas forcément bien desservis, logistiquement c'est compliqué. Entre la Russie et l'Ukraine, c'est un couloir, quoi. Donc à partir du moment où, rapidement, au début, la Russie s'est fatiguée, il n'empêche qu'elle n'a pas voulu sortir du conflit et qu'elle a continué à se battre avec les moyens classiques, infanterie, etc. Donc il n'est pas impossible qu'on soit dans ce genre de situation où, en fait, les gens, une fois qu'ils ont fini de tirer, s'ils ne peuvent pas se taper dessus au corps à corps immédiatement, ou s'ils n'ont pas commencé en même temps à se taper dessus au corps à corps, ben, une fois qu'ils ont fini de se tirer dessus, ben, il n'y a plus rien. Donc, à part aboyer chacun de son côté, forcément, ça pose une limite. Donc ça facilite sans doute le travail de Trump quand il cherche à mettre un couvercle sur la marmite comme ça. Ça peut pas fonctionner peut-être aussi facilement sur tous les conflits, mais enfin, forcément, entre l'Iran et Israël, vu la distance qu'il y a entre les deux, ça crée cette difficulté. Mais encore une fois, s'il y a des choses qui devaient se déclencher en Irak, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Mais enfin, voilà, en tout cas, donc la guerre s'arrête. Est-ce qu'on est vraiment dans une situation différente de si la guerre continuait? Parce qu'encore une fois, ce que je disais avant, et en fait que j'avais dit dès la toute première émission, avec les premières frappes, encore une fois, entre l'Iran et Israël en avril de l'année dernière, c'est que justement, à partir du moment où d'un côté et de l'autre, on a un petit peu épuisé les stocks de munitions, c'est une guerre qui avait ses limites, et donc qui risquait de continuer dans la durée, et éventuellement de s'étendre avec des coups indirects, si possible, périphériques, mais rien de très très probant. Et on peut se demander, en fait, même si on voit les choses comme ça, si l'intervention de Trump et le cessez-le-feu de Trump changent véritablement quelque chose, ou est-ce qu'ils changent quelque chose juste à la marge? C'est-à-dire que est-ce qu'on a juste un cessez-le-feu à la place de combats de plus en plus sporadiques, d'échanges de bombardements qui ne mènent pas très loin et qui peuvent plus avoir la même intensité parce qu'il y a fatigue des deux côtés? Il n'est pas impossible qu'on soit juste, que ce soit ça, juste la différence en réalité, et que le choix de Trump d'essayer d'imposer la paix ne soit pas en soi, n'est pas en soi une telle influence que celle qu'on peut lui prêter comme ça. C'est-à-dire que vraisemblablement, les fondamentaux du conflit lui-même font que c'est difficile peut-être de faire plus à ce stade-là, et donc il y a une sacrée beaucoup d'encouragement, disons, aux deux parties d'accepter la proposition de cesser le feu de Donald Trump, hein, qui pousse un petit peu dans ce sens. Voilà donc ce que je peux vous ajouter pour préciser ce que j'ai dit ces derniers jours. On va peut-être approfondir un petit peu en répondant aux questions. Avant de le faire, comme d'habitude, je rappelle que notre chaîne vit grâce à votre soutien. Vous êtes arrivé trop tard pour participer à la découverte des Amériques. Vous arrivez trop tôt pour participer sans doute à la colonisation de l'espace, mais vous pouvez participer à une belle aventure humaine et scientifique avec le développement. Parce qu'il ne s'agit pas juste de faire du commentaire et ça. J'ai créé cette chaîne pour développer et diffuser les concepts de l'astronomie, les travailler. On a fait un très beau congrès récemment qui vous montre à quel point c'est sérieux. On est en train de développer d'autres projets là-dessus aussi pour pousser encore plus loin l'aventure intellectuelle et scientifique. Donc, n'hésitez pas, soutenez-nous, ça servira tout ça. Voilà. Est-ce qu'on a des questions, des dons, etc., mon cher Léo?
Oui, alors, déjà on remercie attends, Stéphane Ducos pour son don. Il nous dit, moi qui pensais que l'émission des Inconnus, la Troisième Guerre mondiale dans le monde, deviendrait réalité, quelle indignité. Ensuite, question de Féaldaïr. La longue paix de 1945 à 2025, point d'interrogation, que nous avons connue en Europe, est-elle l'équivalent de la Pax Romana ou la Pax Americana est-elle à venir et sur un plus large espace géographique?
Ah mais je pense que ça c'est un truc c'était déjà le cas dans l'histoire du siècle à venir. Je pense que la Pax Americana est encore à venir, dans le sens où je pense que c'est après la confrontation mondiale qui commence là, quand la Chine et la Russie auront été démembrées, puisque je rappelle que c'est ce que je pense qui arrivera. Les États-Unis auront une domination mondiale qui sera encore plus importante que ce qu'elle a été pendant les dernières décennies. Et donc la Pax Americana, effectivement, se poursuivra. La question, c'est dans quelle mesure cette Pax Americana sera véritablement perturbée par la confrontation avec la Chine et la Russie. Quel genre de message aura été entendu par la Chine et la Russie avec ces frappes américaines sur l'Iran? Parce que d'un côté, il y a la frappe qui montre qu'ils ont le courage de le faire. Mais de l'autre côté, malgré tout, le fait de dire, bon, par contre, maintenant on arrête et on discute, ça envoie quand même le signal que vous n'étiez pas non plus prêt à partir dans la durée. Donc je pense que ça limite quand même l'effet dissuasion. Ça montre que vous êtes capable de taper un coup fort, mais si vous, derrière vous donnez le sentiment que vous n'étiez pas prêt à en faire plus, à vous engager, etc., ben, ça donnera l'impression aux gens qu'en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, éventuellement ils s'en prendront une, mais ça ira pas plus loin, ils pourront continuer. C'est notamment en plus l'enseignement qui peut être tiré de la situation de Poutine qui jusqu'à maintenant ne subit pas de conséquences, justement parce que pour le coup, ça exigerait un engagement plus fort des États-Unis contre lui. Donc, à mon avis, il y aura quand même la confrontation avant qu'il y ait la suite de Pax Americana. Je pense que les États-Unis n'y couperont pas. Mais je pense qu'elle durera encore. Oui. Ce ne sera pas la même Pax Americana, mais elle durera encore après.
Alors, je crois que c'est encore Féaldaïr. Verra-t-on en Iran un éclatement de l'autorité de l'État comme a pu le connaître l'Irak ou la Syrie auparavant? Ou pire, des mouvements sécessionnistes réussiront-ils à amputer le pays?
Alors c'est tout à fait possible, ça dépend de la façon dont le pays éclatera exactement, ça dépend de quelle conscience nationale l'emportera sur l'autre. Vous pouvez avoir aussi des épisodes de guerre civile sans éclatement, avec des gens qui essaient de faire des séparatismes par endroits, mais qui sont vaincus, ben, comme par exemple les Tchétchènes en Russie hein, pendant les années 90. Si vous voulez imaginer ce que sera... le sort de l'Iran dans les décennies qui suivront la chute du régime Mollah, grosso modo, il faut regarder la Russie des années 90 et 2000. Parce qu'il se passera à peu près la même chose, parce que c'est ça une révolution nationale. Et c'est ce qu'on a de plus près et de plus comparable. Donc a priori, il se passera quelque chose comme ça. Est-ce que ça va, ça va éclater? Est-ce que l'Iran va perdre une partie de son territoire? L'Iran peut perdre une partie de son territoire. C'est possible. En tout cas, vraisemblablement, il perdra l'espèce de suzeraineté qu'il a obtenue sur l'Irak. Il peut perdre aussi des morceaux, notamment, encore une fois, la partie peuplée par des Azéris, des Turkmènes, qui seraient les plus intéressants pour l'Azerbaïdjan et pour la Turquie, en vue d'une domination et d'une projection encore en direction de l'Asie centrale. Ça, c'est possible.
Alors, question de Jules 1978. Est-ce que Poutine n'a pas réussi à influencer Trump pour sauver son allié iranien?
Ça, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que, encore une fois, par rapport à ce que je disais ces jours-ci, pour l'instant, ça changeait rien pour la Russie. Et la Russie, c'était celle qui avait le plus à gagner à ce que les choses s'enveniment, en raison des prix du pétrole qui permettaient de soutenir un petit peu l'effort de guerre russe et qui était, je pense, une priorité sur le fait d'avoir un bon allié iranien. Donc, ça m'étonnerait que Poutine ait essayé de convaincre Trump là-dessus. Ça, j'y crois pas trop. Je verrais plus les Chinois avoir essayé de pousser Trump à apaiser la situation. Et comme dernièrement, il estimait avoir une bonne négociation avec les Chinois, c'est pas impossible que ça ait joué. Encore une fois, les Chinois ont averti l'Iran dans le même sens que les États-Unis, à savoir qu'il fallait pas, bloquer le détroit d'Ormuz.
Attends, je récupère les questions. Question de Alyosha. L'Iran peut-elle tenter de pousser une invasion de son territoire par les États-Unis pour mener une guérilla là où elle a l'avantage?
Non, ça, je pense pas. Personne ne fait ça. Il faut vraiment être très fanatique pour essayer de chercher à faire quelque chose comme ça. Clairement, l'Iran est pas dans ce truc-là. Comme j'ai dit l'autre jour, l'Iran, c'est un régime qui s'est embourgeoisé, un peu comme l'URSS. Donc, c'est un régime qui est plus révolutionnaire, qui essaie de se maintenir. C'est tout un tas de groupes sociaux et d'institutions qui cherchent à maintenir leur rente, notamment au premier chef, les Pazdaranes. Qui contrôle une bonne partie de l'économie, directement ou indirectement. Et donc, ils n'ont pas du tout envie de tomber, en fait. C'est vraiment, il y a une idée de préserver la paix sociale et d'éviter que les choses se cassent la figure en interne, avec une peur de perdre le pouvoir. Et ça, encore une fois, ça me rappelle ce qui s'est passé à la fin de l'Empire allemand, parce que très rapidement, avec les difficultés de l'été 1918, où ils ont senti que c'était la fin, lorsque l'automne est arrivé, les élites se sont dit, on va se prendre, vu qu'il y avait de plus en plus de grèves, etc., se sont dit, on va se prendre une révolution à l'intérieur, par le bas. Donc, pour prévenir ça, il faut faire une petite révolution par le haut, avec des modifications constitutionnelles que vous connaissez, hein, le chancelier qui se met à dépendre, à être responsable devant le Parlement, etc., pour éviter que tout se casse la figure. Bon, finalement, ça a favorisé le fait que les choses se cassent la figure, puisque forcément, ça a transféré le pouvoir véritablement au Parlement. Mais c'était dans cette volonté de... Il y avait l'idée, plutôt mettre fin à la guerre pour éviter que tout s'effondre, plutôt que le contraire. La différence à l'époque, pour le coup, c'est que les Américains refusaient qui est... Et les Alliés en général, d'ailleurs, refusaient d'accorder la paix à l'Allemagne, de signer un armistice avec l'Allemagne, tant que le Kaiser n'avait pas abdiqué. Et alors que là, personne n'a demandé à Raménaï de partir comme condition préalable. Enfin, ça lui a été un peu demandé, puis c'est revenu dessus. Hein. Donc, on n'est pas au même niveau de rupture encore.
Je remercie Oleyé qui, par des canaux secrets, me dit de rappeler aux gens que le meilleur moyen de nous soutenir est par Tipeee, puisqu'apparemment la question est posée dans le chat. La taxe Tipeee est beaucoup moins importante que la taxe YouTube.
Certes.
Alors, celle-là, je viens de te la poser. Thomas Pariante. Salut Thomas. Sur l'appli YouTube, je n'ai pas l'option pour faire un don. Bon, je vais poser ma question ici et je ferai un Lydia à Léo. Salam depuis Amman, je suis fatigué du jour à rien, monsieur Fabry. Bisous.
Bisous, c'est bon, retour chez toi, l'ami.
Donc ça, c'était le don de Stéphane Ducot, je l'ai lu. Florian Bourelis, Netanyahou ayant échoué dans le renversement du régime et dans la destruction du nucléaire, son pouvoir peut-il être contesté en Israël?
Alors c'est possible, et je pense qu'en Israël, il y a beaucoup de gens qui ne doivent pas être contents du fait que les choses s'arrêtent là. Mais ce que je disais, ça peut n'être que partie remise, encore une fois, ça vient d'arriver. Donc il peut y avoir une partie d'expectative pour voir justement ce qui se passe. Je disais l'autre jour, le problème de bombarder les centres urbains, notamment Téhéran, c'est énorme. Il y a 9 millions d'habitants et 15 millions au total si on compte grosso modo l'aire urbaine. Donc c'est colossal comme concentration urbaine. C'est aussi important que la concentration urbaine autour de Paris. Donc il y a une possibilité d'agitation à partir du moment où il n'y a pas de bombardement qui peut être très importante. Et donc je pense qu'il y a une expectative encore à ce niveau-là. Et si rien ne bouge, je pense que Netanyahou est toujours capable de réescalader encore derrière. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que depuis 2 ans, clairement, Israël a essayer d'escalader au maximum et d'entraîner l'Iran dans l'escalade. L'Iran a renaclé quand même, il faut dire ce qui est. L'Iran a plutôt cherché à désescalader, à faire des trucs symboliques en général, ou limités, à la fois en essayant de ne pas perdre la face et en même temps en se sentant probablement de plus en plus faible, ce qui se comprend, notamment après la chute du Hezbollah et de la Syrie. Je pense que les types savent, vous savez, c'est comme en 1918, l'armée allemande, il y a un moment où ils savaient qu'ils avaient perdu, quoi. Donc, d'ailleurs, au bout d'un moment, Ludendorff, il sait que c'est perdu au début de l'automne, et il s'en va, et en gros, il laisse le bébé pourri, au régime en disant, bon, débrouillez-vous, nous, on n'y arrivera pas. Voilà, bisous. Et donc, je pense que simplement, si les Alliés avaient continué à attaquer machin, les Allemands auraient été obligés de se défendre ou de ne pas accepter de se faire totalement rouler sur la tronche. Et du côté israélien, il y a toujours la peur, cependant, qu'il y ait ce nucléaire qui risque d'intervenir, avec l'idée que les Iraniens développent activement leur nucléaire et les niveaux d'enrichissement qu'ils visent, effectivement, ne semblent pas indiquer autre chose. Parce que si c'était pas le cas, ils auraient pu dire aussi, écoutez, conclure un accord là-dessus. Alors bon, peut-être que de leur point de vue, ils estiment que les accords avec les Occidentaux, en réalité, ça ne vaut rien. Mais bon, ça aurait toujours mieux valu que se prendre des bombes sur la tronche. Parce que si la peur à la fin, c'est celle de se prendre des bombes sur la tronche, d'essayer de faire quelque chose et de prendre des bombes sur la tronche, plutôt que de tenter quelque chose qui permettrait éventuellement d'éviter d'avoir de prendre des bombes sur la tronche, ça aurait été un calcul raisonnable. Bon, il n'a pas été fait, mais donc du coup, je rappelle les séquences. Il y a eu le bombardement du consulat à Damas. Il y a eu ensuite l'assassinat d'Haniyeh, bon, là, qui était légitimé par le rôle qu'il avait dans l'organigramme du Hamas. Mais à Téhéran, c'était nouvelle insulte. Donc il y a eu une série de choses comme ça. Et finalement, carrément, l'attaque d'il y a 12 jours. Donc il n'est pas du tout impossible qu'Israël trouve un moyen de réescalader, renouer l'escalade d'une manière ou d'une autre, encore une fois. Et comme il y a aussi actuellement des discussions entre Israël et la Syrie, entre Israël et la Turquie pour l'ordre local, etc., il peut y avoir des choses qui vont se pointer en direction de l'Irak aussi. Ça serait assez logique, je veux dire, c'est dans cette direction que ça pointerait le plus aisément. Donc, ça peut être un revers temporaire pour Netanyahou. En même temps, on ne peut pas dire que c'est une humiliation pour Israël parce que ça a quand même été une extraordinaire démonstration de force, cette séquence. Même s'il n'y a pas de résultat final, il n'y a pas d'humiliation là-dessus. Bon, ils ont quand même pris des missiles, ce qui n'est pas habituel, mais ça avait déjà commencé l'an dernier, ça. Donc voilà, chute de Netanyahou, pas tout de suite. Et puis s'il y en a un qui a montré sa capacité de survie politique, c'est quand même Benjamin Netanyahou, donc je ne l'enterrerai pas tout de suite.
Question de Florian Bourelis. À l'issue de la révolution iranienne, vers quel bloc l'AKP Chiite iranien va-t-il se tourner, OTAN ou Chine?
Ça, c'est une bonne question. Je pense que, de toute façon, a priori, la Chine va se casser la figure, hein, de toute façon, dans les 10 ans qui viennent. Donc, je pense pas que se tourner vers la Chine sera un calcul très futé à ce moment-là. La question, c'est est-ce que parler de l'OTAN à ce moment-là, ça sera encore juste, parce que comme on va avoir un déploiement de la puissance turque, est-ce que la Turquie restera dans l'OTAN? Ça pose aussi beaucoup de questions. Comme je l'avais déjà dit dans l'émission que j'avais fait sur la dernière émission que j'ai fait sur Israël et sur la région dans son ensemble, je pense qu'un Iran, surtout si c'est un Iran croupion, c'est-à-dire qui aurait perdu certains pans de son territoire, et qui serait comme ça, une espèce de démocratie, à majorité chiite, mais enfin, comme étaient les sociétés occidentales au 19e siècle encore, qui étaient encore très christianisées. Se tournerait plutôt vers l'espèce de koinon, confédération sémitique entre juifs et arabes, pour s'entreprotéger au moins et faire contrepoids à la puissance panturque, plutôt que d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur.
Question de Cache et Liberté. Les conférences du Congrès ont-elles été filmées?
Je te laisse répondre.
Elles ont été filmées. Maintenant, elles doivent être montées,
Okay.
ensuite diffusées et peut-être rétribuées.
C'est ça.
Basile David. L'Iran a parlé pendant 40. En fait, ils ont la puissance militaire du Lot-et-Garonne. Alors, je comprends, c'est une phrase, je comprends pas trop, mais.
L'Iran a parlé pendant 40 ans, probablement. Et en fait, ils ont la puissance du militaire de Lot-et-Garonne. Ben, il y a un petit côté, il y a un petit côté vrai. Le problème, c'est qu'au niveau des équipements militaires, ce qui fait une armée en général terrestre, ben, les Iraniens, ils ont beaucoup souffert parce qu'ils n'ont pas pu acheter de matos à l'étranger depuis la révolution iranienne. Personne n'a voulu les financer. Ils ont perdu une bonne partie du matos qu'ils avaient dans la guerre Iran-Irak, ils n'ont pas pu le reconstruire. Leur aviation s'est jamais relevée de ça. Ils ont développé les missiles balistiques, là où ils ont su développer la technologie eux-mêmes. Bon, au niveau anti-aérien, apparemment, c'est pas génial. Mais voilà, ils ont réussi à exister comme ça. Ils ont surtout existé militairement par leur maîtrise de l'agitation régionale, de la contrebande, de la capacité à fournir des missiles à leur proxy, au Hamas, au Hezbollah, aux Houthis, et à jouer de leur influence à travers le croissant chiite notamment. Et tout ça, en grande partie, s'est effondré. Ça a commencé, ils ont commencé à souffrir avec la mort de Soleimani, qui était encore une fois l'architecte de ça. Et très clairement, l'empire iranien, en fait, il s'est déjà effondré. Il est déjà replié sur l'Iran lui-même. Si on fait un parallèle, en fait, avec la Turquie, c'est un peu la situation dans laquelle l'Empire ottoman s'est trouvé en 1918, c'est-à-dire avec replié sur la Turquie, en fait, et en ayant perdu la totalité du territoire habituel, qui était non turc. Et ça a eu un effet, c'est important aussi, sur la dynamique nationale en Turquie. Donc ça pourrait aussi jouer sur un repli national en Iran, je suppose.
Alors, question en quatre parties, ça va être un peu long. Suzanne Darber, et je ne sais pas si j'avais remercié du coup Basile David, je crois, pour son don. Alors, donc merci. Suzanne Darber, dans quelle mesure les gesticulations de Trump et son manque de loyauté consolident ou et confirment la mise en place d'un schisme de l'Occident? Pour être clair, j'ai le sentiment que l'on voit surgir la possibilité réelle d'un Occident américain et d'un Occident européen. Le divorce n'est pas encore consommé, mais plusieurs lignes rouges européennes ont déjà été franchies. Et puis, il y a la question de la place de l'Occident océanien, Nouvelle-Calédonie, Australie, Nouvelle-Zélande. Pour les Latino-Américains et l'Afrique du Sud, inutile de se poser la question. Les deux ne font plus partie de l'Occident. Deuxième point. Selon vous, Philippe Fabry, mais je répondrai moi pour la peine, quelle marche doit suivre l'UE pour sortir grand hégémon de cette nouvelle guerre froide voulue par les États-Unis et les BRICS? Alors, il y a un fichier joint de 127 pages que je viens de te faxer. Si tu peux, s'il te plaît, y jeter un œil.
Alors, comme vous savez, moi j'ai une règle ici, c'est que plus la question est longue, plus la réponse est courte.
Donc tu répondras oui.
Parce que par définition, une question très longue est une question très précise, donc qui n'appelle pas. Voilà. Je ne pense pas que le fossé soit tel entre l'Europe et les États-Unis à ce stade-là. Au contraire, la politique finalement de Donald Trump reconverge plutôt avec ce qui était espéré en Europe. Puisqu'en Europe, la priorité, c'était qu'il n'y ait pas de hausse des prix du pétrole parce qu'on souffre assez déjà depuis le début de la guerre en Ukraine, etc. Emmanuel Macron a dit que le cessez-le-feu de Trump allait dans le bon sens. Donc je pense que le divorce s'est allé encore une fois un peu vite là-dedans. Je pense qu'il y a petit à petit, passé le choc initial, mais avec à force des allers-retours, il y a une compréhension qui commence à se mettre en place, ou à tout le moins une habitude du côté européen, de la façon dont fonctionne Donald Trump. Donc c'est moins inconnu, à partir du moment où c'est moins inconnu, c'est moins inquiétant, et il y a un modus vivendi qui commence à se mettre en place, et j'ai le sentiment, on va le voir aussi avec les engagements européens dans l'OTAN, etc. Donc bon an, mal an, il y a une stratégie commune qui se met en place, et donc je pense vraiment qu'il faut pas trop vite partir sur une idée de divorce entre l'Europe et les États-Unis. Tout n'est pas réglé. Je renvoie à ce que j'ai dit dernièrement sur la stratégie américaine en Europe, probablement. Mais voilà, on n'est pas encore sur une rupture.
Nouvelle question d'onde de Basile David, merci encore.
Merci.
Les jeunes qui se rassemblent le soir à République portent maintenant des drapeaux iraniens. Qu'est-ce que cela dit de notre société française en 2025?
Oh ben, l'Iran reste c'est lié à la cause palestinienne. Les gens défendent l'Iran en disant que l'Iran est le seul soutien réel de la cause palestinienne et donc qui doit être défendu. En plus, il y a des travaux d'influence iranien pour ça, parce que je sais qu'il y a un type qui avait été reconnu comme agent d'influence iranien en France. Je ne sais pas s'il n'avait pas été poursuivi d'ailleurs pour ça. Et qui distribue de ses drapeaux, justement. On l'a chopé en train de distribuer ses drapeaux et être interviewé. Donc il y a aussi ce travail qui est fait par les Iraniens, mais depuis longtemps en plus, hein. Depuis longtemps, il faut se souvenir qu'un travail d'influence iranien en France et dans les réseaux comme ça, dissidents, on va dire, ça fait très longtemps, hein. On se souvient qu'il y avait des liens de proximité avec Alain Soral. Avec Thierry Messant aussi, hein, qui était même réfugié, je crois, là-bas, ou en Syrie, je ne sais plus où après il est parti. Donc il y a des réseaux importants d'influence iranienne en France depuis longtemps, et sans doute ça monte aux sympathies qu'il y avait autour de Roménie à l'époque. Et ça trouve naturellement à s'exprimer, et ça a toujours été lié avec la cause palestinienne, notamment dans les milieux de gauche. Et en plus, maintenant, il y a des gens de droite, qui généralement la droite pro-Poutine, qui est aussi pro-Iran par hostilité envers Israël. Peut-être pas toujours, mais en tout cas très souvent antisémite, tout simplement. Voilà, ça vient de là, en fait, hein, tout simplement. Donc, les drapeaux iraniens, c'est comme les drapeaux palestiniens, ça a le même sens politique, chez nous.
Question, ou plutôt message de Oleyé, frère historionome depuis 29 mois. Victoire totale du Yorarien. Bientôt une fessée gaming au prophète. Il faut réviser la courbe log périodique et l'ajuster aussi en France avec un papy Bayrou qui sera prolongé en ne faisant rien. Bisous.
Peut-être. Pour la fessée gaming, on essaiera sur Rise of Nation. Là, j'insiste. Sinon, je ne fais pas.
Moi, je veux bien le filmer et le commenter, mais pas jouer.
Ah, ben tiens, ça serait un bon nouveau
Voilà,
rendez-vous,
je
ça.
veux bien le commenter, moi. Alors, on remercie The Chataniste pour son don. Il nous dit,
Merci.
ça pue pour Trump, une raclée au mid-terme, point d'interrogation.
Alors, en soi, pas forcément, parce que si ça évite une flambée des prix du pétrole, ça va aller sur les prix de l'énergie, donc c'est bon pour son électorat. Mine de rien, si la frappe lui a fait perdre des opinions à partir du moment où derrière, il peut dire qu'il a fait la frappe pour faire la paix et qu'il a réussi à faire la paix, ben ça plaira à son électorat MAGA. Donc je suis pas sûr que ça le démobilisera. Donc je pense que c'est beaucoup trop tôt pour envisager ça. Surtout qu'en face, les démocrates ont quand même du mal à se remettre en ordre de bataille.
Question de Brise qu'on remercie pour son don. Enfin, c'est pas une question du
Merci.
coup. Il dit, si Macron était malin, il proposerait Trump pour le Nobel de la paix pour le flatter.
Ouais, pourquoi pas. Les Pakistanais ont eu l'idée, tu
Voilà,
vois.
je suis pas sûr qu'ils
Mais
veulent le flatter forcément, Macron, mais les Pakistanais, ils l'ont fait apparemment.
ouais. C'est peut-être ce qu'il lui avait promis en lui demandant de les aider à calmer les Indiens. C'est possible.
On a fait le tour.
Alors, je vois que nous avons un type avec question de Rodolphe qui demande est-ce que l'importante communauté russe en Israël pourrait modifier significativement pardon, la politique d'Israël? Alors, faudrait poser la question à Thomas. Moi, je pense pas. Alors après, ça, dans quel sens? C'est toujours ça aussi. Est-ce qu'il faudrait imaginer que la communauté russe en Israël soit alignée sur la Russie de Poutine et cherche à apaiser la politique vis-à-vis de l'Iran par pro-russisme? Ça, très honnêtement, j'y crois pas du tout. Je pense pas qu'il y ait un lien suffisamment fort pour ça. Que cette communauté ait pesé pour éviter qu'il y ait toujours des confrontations entre Israël et la Russie, ça sans doute, et que ça a eu un effet. Mais pour un alignement au-delà, je pense pas. Les intérêts d'Israël lui-même restent très prioritaires, surtout sur la question iranienne. Donc là,
Écoute,
je pense
on a fait le
que nous
tour.
avons.
On peut citer et remercier Arnaud sur Tipeee, qui
Ouais.
a fait un don
Merci,
pendant
bien vu.
l'émission. Et merci pour ton message. Et après, bah, depuis l'émission de. C'était quand? C'était dimanche? Ouais, c'était dimanche.
Oui.
On remercie Jonathan, Jacques, Thomas, Hubert. Et je crois que c'est tout.
Et aussi sur YouTube, on a Suzanne Darber, Mathieu Gallo, Fred Le Cerf, Yannick Godin qui nous ont rejoints.
Francis et Alexandre sur Tipeee qui, je crois, enfin en tout cas Francis n'avait pas été cité, je pense.
Tout à fait. Tout à fait. Ça fait du monde et on vous remercie infiniment de rejoindre l'aventure et d'y participer. C'est extrêmement important pour nous et vous pourrez dire nous y étions. Bien, eh bien, bientôt vous aurez un nouveau format sur la chaîne que nous avons enregistré aujourd'hui avec l'ami Léo. Donc, on a beaucoup bossé aujourd'hui, donc on est beaucoup fatigué. Donc, on va vous dire beaucoup bonne nuit et vous laissez pas faire.